écoutez Aligre FM 93.1. De l'huile sur le jeu. Une chronique par Antoine Marsay. Le mont inaccessible. L'histoire de l'alpinisme est jalonnée d'exploits, d'hommes et de femmes qui ont cherché à monter toujours plus haut, pour tutoyer les étoiles et les dieux. Un sommet sur lequel Nob n'a pas encore posé son pied, c'est un géant mystique, une terre vierge où des chimères ont élu domicile. Le premier grand exploit alpiniste recensé a eu lieu en France, dans le massif du Vercors. Ici se dresse le mont Aiguille, dont le sommet paradoxalement plat surplombe les plateaux aux alentours du haut de ses 2087 mètres. Mont inaccessible selon les populations locales à l'époque médiévale, démons et dragons en auraient fait leur repère. Une autre légende parle d'un aigle envoyé par Dieu qui aurait déposé un jeune agneau offert en cadeau à Jésus. Sitôt les deux animaux arrivés sur ce sommet stérile, celui-ci se serait tapissé de fleurs plus belles les unes que les autres, qui parvinrent rapidement à parfumer toute la vallée. Mais à la fin du XVe siècle, Charles VIII, alors roi de France, et voulant certainement défier ce colosse aussi craint qu'admiré, se lance à la conquête du mystérieux Éden qui semble fleurir tout là-haut. Il commande alors une expédition inédite. Pour mener cette opération d'ampleur, le roi dépêche Antoine de Ville, un seigneur lorrain, capitaine pour la couronne de France. Il ne se lance bien sûr pas seul dans cette aventure périlleuse, mais les sources divergent concernant la composition de l'équipe. Si certaines parlent de 7 compagnons, d'autres évoquent une vingtaine d'hommes, accompagnés d'un notaire. Et en effet, la présence de l'homme de loi va de pair avec l'idée du souverain de réclamer cette terre suspendue, l'arracher au royaume céleste. C'est donc le 26 juin 1492 qu'Antoine de Ville s'attaque au mont inaccessible et ses pentes abruptes. Comme Christophe Colomb qui découvrira 3 mois plus tard le Nouveau Monde, de Ville et ses hommes veulent eux aussi toucher aux limites de la terre, repousser les frontières du monde connu. Et pour ça, il faut monter sur le toit. Des reconstitutions menées par des scientifiques et des documentaristes au Mont Aiguille permettent aujourd'hui de comprendre comment ils ont pu grimper les 250 mètres de falaise à pic qui séparent le départ de l'ascension du sommet. Fort de son expérience dans l'armée, De Ville va se servir d'échelles utilisées pour prendre d'assaut les châteaux forts. Ces échelles, fabriquées au pied de la montagne, font 6 à 7 mètres de haut. Il faut ensuite grimper dessus, puis en hisser une nouvelle pour progresser sur la paroi. Étant donné également le poids du matériel acheminé jusqu'en haut, cette ascension constitue un véritable exploit sportif. Et elle va connaître un retentissement politique qui dépasse largement l'écho de la vallée. Cette ascension en forme d'assaut, comme on prend une forteresse, va garder sa connotation guerrière une fois les hommes au sommet. Dès leur arrivée, ils l'occupent. Ils restent une semaine, construisant une petite baraque et invitant des notables locaux à les rejoindre. Un prêtre est dépêché sur place pour baptiser la montagne. Nous sommes en pleine Renaissance et tout nouveau territoire doit être christianisé. Dès lors, le mont inaccessible est renommé Aiguille Fort, entérinant la supériorité guerrière du royaume de France sur les légendes païennes de cette région isolée. De plus, les alpinistes découvrent dans la prairie qui tapisse le sommet de la montagne de nombreuses fleurs de lys, symbole de la royauté. Antoine de Ville vient de découvrir, perché au sommet d'une falaise, le jardin du roi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Charles VIII était allé conquérir des images, mais d'autres vont les retourner contre lui. La littérature française regorge ainsi de nombreuses références à cette montagne et au mythe qui l'entoure pour tourner le monarque en dérision. Au XVIe siècle, c'est d'abord Rabelais qui assimile le Mont Aiguille au royaume d'un tyran. Au XVIIIe siècle, un autre auteur, Restif de la Bretonne, parle d'un monarque absolu au sommet, qui règne sur des hommes et des animaux qu'il a capturés. Tandis qu'au siècle dernier, Jean Giono dépeint un roi sans divertissement qui s'épuise à courir autour de la montagne. Cerise sur le gâteau, la deuxième ascension de la montagne a lieu en 1834, en pleine monarchie de Juillet. Jean Lyotard de Trézanne et ses cinq compagnons, républicains convaincus, s'amusent ainsi à chanter la Marseillaise au sommet et improvisent une partie de boule avec des cailloux. Le roi n'est plus au sommet. Il est moqué dans son propre jardin. L'acte de naissance de l'alpinisme fut ainsi à la fois grande découverte, coup de force politique et tremplin d'une satire du pouvoir. Antoine de Ville et ses hommes ont assiégé la montagne pour dissiper les mythes, conquérir un petit bout du monde. Mais le Mont Aiguille, lui, est toujours là, immuable et majestueux. Il n'y a qu'à l'admirer, voire mieux, l'escalader.